sans prendre compte de l'expression des électeurs, mon avis, c'est quand même moins bien, pas à tout prix, parce que ça a quand même des problèmes. Et pour finir, pour ne pas être trop long, on n'a pas prononcé le mot, mais si il s'agit de reconnecter en quelque sorte, pardon pour le néologisme, les institutions et les citoyens, ben, on n'a pas prononcé le mot qui était pourtant une des avancées de la Ve République originale, ben, c'est peut-être le référendum. C'est peut-être le référendum. Le référendum n'est certainement pas une fin en soi. Moi, je partage l'idée que le référendum n'est pas l'expression du peuple vrai parce qu'il n'y en a pas. Mais il peut être, contrairement à ce qu'il est, un des instruments de limitation du pouvoir, un des instruments d'équilibre du pouvoir. Le corps électoral peut reprendre la parole quand on la lui donne, et d'ailleurs, quand on regarde attentivement l'article 11, c'est exactement ce qu'il dit. Personne ne s'auto-saisit comme ça. C'est une séparation des pouvoirs, une distribution des pouvoirs très subtile qui est organisée pour donner la parole. Et peut-être que si on ne veut pas qu'un jour les institutions s'effondrent complètement, ben, il faudrait essayer justement que les citoyens se reconnaissent davantage dans cette institution en reconnectant. Voilà, monsieur.
Merci beaucoup, Bruno. Oui, en fait, il y a un thème classique de la Ve République qui a été un peu réactivé par Emmanuel Macron, mais peut-être pas de la bonne façon, c'est le thème du lien entre le président et la nation. Le président comme une entité capable d'avoir un rapport direct avec le peuple et d'entretenir ce rapport d'une manière à la fois un peu magique, un peu charismatique, mais quand même opérationnelle. Je pense que ça s'est mis à dysfonctionner et je pense que maintenant c'est complètement mis de côté parce que plus personne n'a la martingale, mais plus personne ne sait comment faire. Alors rassure-toi sur le référendum, je crois que c'est dans les cartons. Je ne sais pas si c'est une extrêmement bonne chose, mais enfin c'est comme ça. Moi, une autre chose qui me frappe, mais c'est peut-être un débat personnel, c'est que absolument tout le monde a placé sous le boisseau la question de la démocratie participative ou délibérative. Qu'on l'aime ou non, qu'on veuille la faire à petite ou à grande échelle, enfin, à petite échelle, parce que c'est des mini-publics, comme on dit. Mais il y a encore 4-5 ans, c'était tout à fait à la mode. Ça faisait rage, on en parlait, on faisait des conventions citoyennes. Et elles étaient réclamées de à peu près dans tous les camps. Monsieur Macron l'a beaucoup fait, on pouvait toujours se demander si chez lui c'était une véritable adhésion à la démocratie participative ou du marketing politique. Je pense que la réponse se trouve dans la question. Mais si vous prenez par exemple la gauche et les filles, ils l'exigeaient, ils la demandaient. Et puis quand ils ont eu la divine surprise des bons résultats aux deux élections législatives, c'est comme si ça avait été oublié, parce qu'on s'amuse tellement au Parlement, avec des drapeaux, des trucs, qu'il n'y a plus de raison de demander aux citoyens de se prononcer. Donc il y a aussi, de ce point de vue-là, je pense que c'était une micro-solution, parce que c'était une solution qui aurait pu avoir ça, qui aurait pu avoir sa place. C'est le moment tant attendu où nous pouvons avoir une discussion générale, parce que les membres du précédent panel veulent exercer leurs prérogatives, c'est-à-dire de parler en premier, Julien Jeannet.
Alors, quelques éléments notés en vous écoutant tous rapidement. Première réflexion quand même sur le fait que dès 2002, Chirac n'a pas fait ce qu'on a reproché à Macron, à savoir faire un gouvernement d'union nationale après avoir été élu très largement par les votes de personnes qui ne soutenaient pas le RPR ou l'UMP. Donc c'est un phénomène qui est assez ancien. Sur le fait de nommer plein de premiers ministres, ça aussi, évidemment, ça aurait une portée pédagogique, mais ça aurait aussi des conséquences politiques. Le fait de ne pas pouvoir avoir des premiers ministres qui fonctionnent, on se rappelle Mitterrand en 1924 quand même, à un moment, est-ce que la conséquence n'aurait pas été de forcer Macron à la démission de manière directe, si jamais il était parfaitement impossible, en tout cas si jamais il y avait eu des blocages, des motions de censure systématiques, dès le lendemain de la nomination de chaque premier ministre, l'un après l'autre. Indépendamment du fait de savoir si Castex risquait de faire passer des mesures désagréables pour Macron. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie Danquin sur le fait que sur la troisième et surtout sur la quatrième, puisque pour rebondir sur la proportionnelle, qui est un sujet qui m'intéresse en ce moment, la quatrième c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on a une même élection législative qui peut conduire tour à tour à ce que Pinet, à ce que Mendès France deviennent des premiers ministres. Tout ça se fait dans la tambouille entre des parlementaires, sans aucun lien avec. On parle d'absence de dernier mot ou de jeu du peuple, des électeurs en tout cas, pour le coup, les électeurs avaient très peu à dire sur la 4ème République, sur ce qui devenait effectivement les gouvernements. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Bruno Daugeron sur le premier tour et le second tour. Moi, pour ma part, je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, c'est une rhétorique qu'on entend beaucoup, on a entendu dans la bouche de Bruno Retailleau sur le fait de dire oui, mais le premier tour nous a révélé que les Français, en gros, étaient des extrêmes droites, quoi, et que donc il était important de leur répondre. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce que on estimerait que l'expression des électeurs au second tour aurait moins de valeur que l'expression au premier tour. À partir du moment où les règles du jeu sont claires et où les électeurs fonctionnent de manière stratégique, c'est-à-dire en s'adaptant évidemment à ce qui était devant eux, et notamment à la faveur du cartel du Nouveau Front Populaire, certains ont eu des électeurs qui étaient LFI, d'autres, des candidats LFI, d'autres écolos, d'autres communistes, d'autres socialistes d'un côté. L'expression au second tour me semble tout à fait autant légitime d'un point de vue politique, d'un point de vue constitutionnel, que l'expression du premier tour. Donc l'idée selon laquelle, en gros, il y aurait une sorte de vote de cœur, de véritable vote au premier tour et pas au second tour, en fait, ça fait fond sur l'idée qui me paraît contestable, selon laquelle une élection aurait pour principal objectif d'exprimer une adhésion, d'exprimer un attachement. Je trouve que le fait de dire non, le barrage, dans une société politique mûre, a autant de valeur que le fait d'adhérer à quelqu'un. Et le fait de dire je vais voter entre le moins mauvais des candidats qui restent au second tour, je ne vois pas pourquoi ça aurait moins de valeur du point de vue de notre vision de l'élection que le fait de dire je préfère les animalistes parce que j'ai des animaux, j'aime bien, et donc j'aimerais bien qu'il y ait quelques voix pour peut-être un jour un député animaliste. Voilà. Bref, on pourrait parler de plein de choses.
Arnaud, les réponses, c'est tout.
Tu vois ce que tu veux?
Oui, j'ai une réponse sur la question que vous avez plus précisément adressée. À savoir le fait qu'effectivement, il peut y avoir un problème à essayer plusieurs solutions. Et il ne vous aura pas échappé que Barnier a été nommé le 5 septembre et que la loi de censure a été votée au moment où l'Assemblée nationale a pu se réunir, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et pendant ce laps de temps-là, il y avait quand même un temps qui aurait pu être mis à profit par un gouvernement IFP pour agir. Moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il a anticipé par une sorte de veto, parce qu'il estimait que les politiques que ce gouvernement était susceptible de mettre en œuvre ne lui convenait pas. La stabilité institutionnelle, très honnêtement, je pense que c'était pas le problème, hein, parce qu'en réalité, aucune des forces politiques qui refusaient de s'associer l'une avec l'autre ne disposait d'une majorité suffisante. Donc je crois que c'était en réalité un faux argument. En réalité, il a considéré qu'il lui appartenait toujours de décider quelle politique publique était possible ou pas. Voilà. Et c'est ça qui me gêne. Et par ailleurs, je voulais aussi juste répondre à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, mais sur le fait que, sur le temps qu'il a mis à nommer un gouvernement, il y a quand même deux phases qu'il faut séparer. Moi, la trêve olympique, ça m'a un peu surpris, parce qu'on a parlé de la tradition parlementaire. Effectivement, dans les régimes parlementaires, on met un peu de temps à trouver la bonne coalition, on consulte, mais il n'a pas consulté tout de suite, justement. Il a attendu beaucoup de temps avant de consulter. Et ça, je trouve que c'est quand même particulièrement choquant.
À la demande du public, je vous demande de parler un petit peu plus fort, et malgré la modération de vos propos, de hausser le temps. Justement, hausser le temps pour répondre à Julien rapidement. Il y a une idée que je trouve très contestable, qui a été développée, qui traîne beaucoup. Je comprends bien l'idée, effectivement, que Jean-Marie, on vote pour l'Indes, puis après, on a Pinet ou Edgar Faure, et donc l'électeur perd le dernier mot. Mais, quand même, pardon, mais ce raisonnement est totalement contraire à la logique du gouvernement parlementaire. Dans un gouvernement parlementaire, il y a une responsabilité possible devant le Parlement. C'est pas pour 5 ans, pour rien, parce que si on entre dans l'Assemblée nationale actuellement, il y a interdiction de renverser le gouvernement au nom de ce que les électeurs ont voté pour une coalition, ça ne s'appelle plus un gouvernement parlementaire. Et le but du gouvernement parlementaire, le but institutionnel presque, et je dirais presque le jeu, c'est que l'opposition devienne majorité. C'est ça le jeu. Et si on veut sortir de ce jeu-là, à ce moment-là, on supprime la responsabilité, on n'est plus dans une logique parlementaire. Moi, je pense qu'il y a une énorme ambiguïté dans cette affaire-là. Une énorme ambiguïté. Quand au premier tour, au second tour, on peut toujours discuter, je ne conviens pas qu'il y a un deuxième tour. Hein. Mais le deuxième tour, évidemment, je disais, les tambouilles sont faites au Parlement, etc. Mais quand les appareils, les partis discutent des investitures, ils discutent des désistements, discutent de ceci, discutent de là, discutent des échanges de tel poste, tout ça, on n'en parle pas. Et bien, qu'est-ce que c'est, ça, si ce n'est pas de la tambouille? Donc, à mon avis, là, c'est un conte de fées, cette affaire. C'est un conte de fées. Et moi, je pense que
il n'y a pas des vrais électeurs du premier tour et des vrais électeurs du second tour. Enfin, bon sang, regardons l'état du pays, regardons la manière dont les choses s'expriment. On voit bien qu'il y a des choses qui sont très marquées au premier tour et un deuxième tour qui ne ressemble pas à ça, qui est beaucoup plus central. Donc, alors, continuons comme ça et vous verrez que cette fois-ci, quel que soit le mode de scrutin, les gens que vous n'aimez pas finiront par y arriver. Voilà, c'est tout. Et je pense que ça me paraît très, très curieux de vouloir en quelque sorte nier l'expression populaire tout en voulant sans cesse s'en réclamer. Voilà, il y a quelque chose qui me semble ennuyeux et je pense qu'on est en train de vouloir casser le thermomètre et que ça n'arrange rien. Voilà.
Merci beaucoup. Sur la liste des gens qui vont intervenir, il y a Denis Barranger, Michel et Patrick. J'en ai quelques autres. Ce que je voulais dire, Denis Barranger, c'est la chose suivante. C'est malin de l'ombre, quand il est mort, je tiens pour le faire. J'ai pas tous les atouts, mais voilà. En réaction à ce qu'a dit Bruno, et quand j'avais écouté l'excellent propos d'Elina Le Maire tout à l'heure, je me demande s'il n'y a pas au nombre des solutions possibles ou disponibles de l'ingénierie constitutionnelle accessible aujourd'hui, un déclin massif de l'idée de responsabilité politique. C'est-à-dire, nous, constitutionnalistes, on a l'impression que c'est une solution. Moi, j'ai fait ma thèse sur le régime parlementaire. Pour moi, la responsabilité politique, c'est l'essence du régime parlementaire. Donc, c'est quelque chose d'ex post, c'est une solution ex post. Vous êtes au pouvoir et on vous sanctionne, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'article 68, l'impeachment à l'américaine, voilà. En réalité, ce qui a gagné en droit constitutionnel dans la longue durée, c'est le ex ante, c'est-à-dire c'est l'élection. Du coup, elle est investie d'une magie, d'un charme particulier, et on lui donne tous les effets. Je pense qu'aujourd'hui, si M. Macron gouverne, c'est parce qu'il considère qu'il a été élu, et tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Et je crains un peu que ça affecte. Il faut bien voir qu'en droit constitutionnel, je ne dirais pas qu'il y a des modes, mais il y a des choses intellectuellement disponibles à un moment donné, et je pense qu'on n'est plus au 19e siècle. On n'est plus à l'époque où parce que la responsabilité politique, c'est oligarchique. C'est oligarchique, c'est même aristocratique, c'est un entre-soi, comme disent les sociologues, permet à dire à quelqu'un tu n'es plus des nôtres, on ne veut plus que ce soit toi, on veut que ce soit d'autres, c'est assez collectif. Je crains bien que dans l'ingénierie constitutionnelle d'aujourd'hui, ça ne soit plus un outil. Voilà, en tout cas, c'est l'idée que je suggère. Je donne la parole à Michel Trappin.
Merci. Juste sur le point d'ingénierie, il me semble que dans les débats auxquels j'ai assisté, quand je regarde quelquefois la télévision, ou quand je lis les journaux, on parle beaucoup de l'esprit des institutions, on parle de la volonté du peuple, et on parle même d'ADN. Olivier a cité tout à l'heure l'article de Pierre Avry, l'ADN, qui est le synonyme moderne de l'ADN. J'imaginais Montesquieu écrivant l'ADN des lois. Mais en réalité, c'est hypostasié, hein, des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de volonté du peuple, il n'y a pas d'esprit de la Ve République, ni de nature, ni d'essence, de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des compétences qui sont données à des autorités. Ces compétences produisent des effets, bien entendu, mais c'est là-dessus qu'il faut raisonner. Pas interpréter ce que devrait être, selon l'esprit, le régime parlementaire. Il y a, dans le Code civil, il y a, je crois, un article qui dit qu'il est interdit d'interpréter, de se conformer à l'esprit, en écartant la lettre, sous prétexte de se conformer à l'esprit, d'écarter la lettre. Non, il n'y a pas d'esprit, donc il faut vérifier quels sont les mécanismes, quels effets peuvent produire les mécanismes. Alors, ce que nous avons tenté de montrer dans cet article, c'est que le mécanisme de l'élection présidentielle au suffrage universel, non pas parce que c'est contraire ou conforme à l'esprit de la Constitution, le mécanisme de l'élection au suffrage universel produit des effets mécaniques sur les stratégies des partis politiques, sur les stratégies des hommes politiques, sur le comportement des électeurs. Et c'est, à mon avis, là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier ça ? Et donc, supprimer l'élection au suffrage universel, ça paraît effectivement difficile de le faire frontalement et de le proposer frontalement parce que ceux qui ont le pouvoir de le faire, mais ont intérêt à ne pas le faire, parce que précisément, ils veulent être président, ou bien ils veulent être au moins premier ministre. Donc, les chances de succès de ce côté-là sont faibles. En revanche, je crois qu'il y a des leviers qui sont des leviers disponibles, et donc c'est Arnaud qui a proposé, on l'a rappelé tout à l'heure, la représentation proportionnelle. Qu'est-ce que ça a de fructueux, la représentation proportionnelle? Non seulement parce que ça donne une certaine composition, mais est-ce que ça force les acteurs à modifier leur stratégie? Alors, on ne se présente pas à une élection de la même façon quand c'est à la proportionnelle, parce que quand c'est à la proportionnelle, on sait très bien qu'on ne pourra pas appliquer tout son programme et rien que son programme. Donc on ne le fait pas. On le fait en pensant à des compromis et à des coalitions possibles une fois qu'on arrivera au pouvoir. Et donc on commence même quelquefois à négocier ces compromis possibles avant même que l'élection ait lieu. Et de la même façon, s'il y a un président de la République qui se trouve en face d'une assemblée qui a été élu à la proportionnelle, cette assemblée sera nécessairement fragmentée, il n'y a pas de majorité possible, et il y a des coalitions qui sont nécessaires. Et donc ce président de la République, même s'il reste en place un moment, serait bien contraint de se comporter comme un président de la République italienne et de négocier la formation de coalitions. Merci.
Julien Genet.
Oui, plusieurs éléments. Sur cet aspect-là, je suis d'accord. Non, pardon. Bruno, je voulais revenir juste sur un point. Tu critiquais les tambours faits entre les deux tours, si je veux dire. Il y a quand même soit de toute façon des tambouilles et des négociations avant le scrutin, soit après. Au scrutin majoritaire, c'est avant, à la proportionnelle, c'est après. Alors on peut évoquer ce que disait Michel Fontaine à l'instant, alors que ça commence à se préparer. Mais enfin, du point de vue des électeurs, ce qu'on leur présente, c'est quand même à un moment des accords avant plutôt qu'après, ce qui me semble quand même plutôt préférable. L'autre élément, si le président de la République est face à une assemblée à la proportionnelle, il y a des coalitions nécessaires. C'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une assemblée nationale qui a été élue au scrutin majoritaire, mais qui ressemble quand même beaucoup à une assemblée élue à la proportionnelle. Donc ça sera intéressant de voir dans les deux ou trois prochaines années potentiellement ce qu'on en tire et ce que ça produit comme effet du point de vue de l'évolution du comportement des acteurs d'un point de vue stratégique.
À condition que se fragmente encore.
À condition que se fragmente encore, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est pas impossible.
Arnaud et ensuite Patrick, ou bien
je crois que c'est Patrick d'abord.
D'accord, Patrick d'abord.
Alors, au premier point, c'est sûr, au premier point, je pars sur le contrôle de Nicolas, c'est ce que vous avez dit sur le régime parlementaire. Il y avait quand même, vous avez raison globalement, mais à certains moments de l'histoire de la 3e et la 4e République, il y a une intervention de l'opinion, enfin, qui fait que les citoyens jouent un rôle dans le choix dans la frustration par rapport au, je pense. En 17, Poincaré appelle Clémenceau, il y a vraiment une demande de l'opinion, et même s'il déteste Clémenceau, il est obligé de faire appel à lui. Bon. Et la deuxième chose inverse, en 56, les gens croient Élie Hermadès, et on leur envoie Guy Mollet qui fait la politique inverse, et là, il y a pour l'électorat de gauche une trahison qui va se payer par 25 ans d'opposition. C'est-à-dire que le sentiment de ne pas avoir respecté un mandat électoral presque direct, puisque Mendès quand même s'adressait directement aux citoyens, a été très coûteux du point de vue de la SFIO et des forces de gauche pour la suite. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'article 68. Alors vous avez parlé des ministres, moi je voudrais quand même faire que la comparaison historique, il est quand même, l'article 68 est une avancée par rapport au précédent article 68.
Ah ben.
La haute trahison, c'était terminé. On ne pouvait jamais. Le fait qu'on ait pu déjà deux fois de suite. Mais alors moi je trouve, là j'en ai déjà parlé avec Julien, je trouve que les constitutionnalistes devraient réfléchir à ce que ça veut dire avec deux voix au président de la République. Parce que. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas un travail un petit peu intellectuel fait autour du sens de l'article 68, c'est difficile de reprocher aux parlementaires de faire de n'importe quoi quand ils présentent des résolutions pour la mise en application de l'article 68. Je trouve que ça mériterait des travaux, des colloques, pour, après tout, rendre intéressant et populaire cet article. Quand on voit aux États-Unis, l'impeachment est de plus en plus, même s'il n'aboutit pas, il a quand même été utilisé dans les 20 dernières, 30 dernières années, beaucoup plus que dans toute l'histoire constitutionnelle américaine. Donc je trouve qu'il faut peut-être le banaliser et le rendre, je dirais, et ça c'est, je fais la transition vers le troisième point, qui est quelle réforme, la réforme. Moi je trouve que, moi, je suis pour la suppression de l'élection du président, mais ça va faire aboutir. En revanche, il y a des trucs qu'on peut faire aboutir par la réforme, par la loi. Bon, c'est le cas de la proportionnelle, et là je vais répondre à Julien, que la grande différence, même si le hasard faisant les choses, bien les choses, ça fait comme une chambre parlementaire, le statut du député, ce qu'on disait tout à l'heure, son sentiment de sécurité du point de vue électoral est totalement différent. Parce que le jour où il est élu à la proportionnelle, bon, je dirais, beaucoup, la majorité des parlementaires se sentiront stables, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Ils se sentent. Donc, ça les rend un peu. C'est pas exactement le même rôle de ce point de vue-là. Et je pense que ça stabilise un pouvoir parlementaire, la proportionnelle, comme contrepoids au président de la République. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, c'est le sujet du cumul des mandats. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas revenir complètement sur la loi, mais moi je me demande si on ne pourrait pas associer le retour d'un certain cumul avec la possibilité de la révocation des exécutifs locaux. Je pense à l'exemple de Saint-Étienne aujourd'hui. Je suis sûr que les électeurs de Saint-Étienne pouvaient, avec la procédure, en mettant 10 ou 20% des électeurs inscrits, pouvaient demander un référendum de révocation. Je pense qu'il y aurait sans hésiter une majorité pour se débarrasser de leur maire. Bon. Donc je pense que ne pas avoir une procédure de révocation qui pourrait venir un peu avec un paquet, un morceau soutenu par la gauche, un autre soutenu par la droite, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là qui pourrait aussi contribuer, pourrait passer en cas d'une assemblée aussi compliquée que celle d'aujourd'hui.
C'est quand même frappant l'énergie avec laquelle à peu près tous les parlementaires, sauf les LFI, et y compris le rapporteur qui était EELV, ont été très hostiles à l'usage de l'article 68. Il y a une sorte de rejet intellectuel, si on veut employer ce terme, assez massif que j'ai eu du mal à comprendre. Moi, j'avais effectivement plaidé qu'on pouvait en faire un usage apaisé, comme d'un forum de discussion du comportement présidentiel, et qu'il appartenait, comme l'avait fait le Congrès des États-Unis, avec les causes et les possibilités d'impeachment, le high crimes and misdemeanors, il appartenait aux parlementaires, par des précédents et par des débats, de constituer progressivement ce corpus. Or, comme l'a dit très bien Cécile, non seulement la résolution était assez médiocre intellectuellement, quand on se rappelle ce que c'était que l'extrême gauche intellectuelle en France en 1972, ça a un petit peu laissé puits. Mais le débat en commission était assez inepte. Il y a quelqu'un qui a dit si vous voulez engager la responsabilité du président, la solution c'est la motion de censure. Donc il y a quand même quelque chose de frappant, on se rejette là. Il y a eu un rejet par les hommes politiques.
Il y a eu un colloque sur l'article 68, dans les phases de droit, depuis son adoption.
Bah, je suis pas sûr.
Je trouve que
il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une
mais
je vais essayer de
voir.
Il faut peut-être y revenir, vous êtes un bon donneur d'ordre constitutionnel. J'ai noté vos indications, mais c'est gratuit en plus. Mais c'est impérieux. Voilà. Olivier Beau.
J'avais écrit un article au moment où il n'y avait pas de l'organisme. Je m'étais posé, le président de Nicolas Sarkozy, et la question c'est de savoir si on avait la matière avec mes défendus, mais ils sont directement applicables. Alors qu'il n'y avait pas de l'organisme. J'avais, dans cet article, c'est un colloque sur le chef d'État, on va comparer la société législative comparée, j'avais plaidé la thèse sur laquelle on pouvait tout à fait activer l'article 68, malgré cette carence du législateur organique, donc j'avais peut-être une carence, quelque chose de critiquable, et que le texte de l'article 68 n'empêchait pas éventuellement l'Assemblée de voter d'un règlement intérieur pour activer une procédure. Donc, effectivement, on pourrait réfléchir davantage à cette
partition, l'article 68. Ce qui veut quand même dire que le texte est rédigé exprès de façon très vague,
oui.
Parce que si on lit l'exposé des motifs en fait le rapport Avril, oui. Et ce qu'il disait notamment, expressément d'ailleurs dans le rapport Avril, c'était pas seulement le dysfonctionnement du président en action dans sa fonction, mais également dans sa vie privée. Hein, on voulait, comme dans le droit d'information publique, on voulait éventuellement se débarrasser d'un président qui, par ses actes, qui relève soit de sa vie privée ou soit de sa vie privée antérieure, soit de sa vie publique antérieure, relève d'une indignité. Et l'exemple cité Carcassonne, c'était, comme par hasard, pourrait-on avoir un président de lui, un ancien tortionnaire.
Le Pen.
Donc c'est un peu délibéré. Donc bon, bref, bon, je suis un écologue sur la question de la formulation, mais c'est fait de manière suffisamment vague pour en fait il n'empêche que si on reprend l'intention de ceux qui ont fait l'article, donc je suis débarrassé disant l'intention de Pierre Avril et de la commission, c'était quand même. Pierre Avril a répété récemment dans un interview à la radio de France Inter, il a dit l'article 68 n'est pas là pour régler un désaccord. Donc la frontière est très fine entre est-ce que c'est là pour régler un désaccord politique, mais c'est pour régler un grave problème politique. C'est ce que je veux dire. Et après, évidemment, c'est très. Alors, deuxième remarque, c'est un peu anecdotique, mais je ne peux pas résister à cette formule que Michel Fauvert s'est limité du référent à l'esprit de l'institution. Et surtout, j'étais allé lire les rapports des délibérations du Conseil constitutionnel sur la souveraineté. J'étais tombé sur une délibération où Jacques Robert, le professeur de droit public, invoquait l'esprit de l'institution. Et Madame Tain me dit écoutez, chers collègues, on n'est pas là ici pour faire tourner l'État. Ça rejoint de façon plus sérieuse sur. Il y a quand même, je trouve, un problème qu'on n'a pas quand même abordé, c'est la situation actuelle, la gravité de la situation actuelle. C'est pas tellement que l'Assemblée est fractionnée, c'est le poids de deux partis extrémistes dans cette Assemblée. Voilà. LFI qui tient en tutelle la gauche, le NSP n'est pas un parti, donc c'est un petit accord avec le président de l'Union européenne, c'est pas vraiment un parti. C'est une alliance un peu conclusive, c'est pas vraiment un parti. Et donc, ce parti est sous la tutelle de l'Union, qui est évidemment devenu un parti extrémiste, qui le revendique, et je pense pas que je le dis, j'ai regardé les débats, notamment la déclaration de l'Union générale, le comportement des élus de LFI est purement scandaleux. C'est-à-dire que si vous vous amusez à regarder tout le. J'ai pas vu, j'ai fait le compte rendu du débat, pratiquement chaque phrase du président, tout le début du Premier ministre, est interrompue par quelqu'un de l'esprit. C'est-à-dire que là, c'est plus un débat parlementaire, c'est même plus une déclaration du général. Donc, vous avez deux partis extrémistes, le Rassemblement national, qui est extrémiste de toute manière, et les filles. Donc, comment gouverner donc, on est maintenant, on va retourner à la scène parlementaire, mais c'est trop difficile d'avoir un gouvernement parlementaire de ce type. On a connu ça avec Weimar, on a connu ça aussi avec la quatrième. Le problème de la quatrième, c'est que vous avez deux partis, le Parti communiste et puis le RPF, gaulliste, qui paralysaient l'Assemblée. Donc, je pense qu'on n'a pas encore évoqué cette question, c'est comment gouverner une Assemblée qui semble finalement un gouvernement. Vous pouvez lancer ce débat sur
C'est dommage parce que comme je voulais prendre la parole avant,
c'est pas
seulement vous. Moi j'ai laissé la parole à Vivienne, il m'a inspiré les commentaires, lui à nouveau, donc en fait si je m'écoutais je parlerais deux heures, mais je vais essayer quand même de limiter. C'est ça. Simplement sur j'ai un peu réagi quand Patrick Veil a dit que l'article 68 a été amélioré, la procédure a été améliorée, parce qu'effectivement il y a une modernisation des motifs, mais le seuil pour obtenir la destitution est tellement élevé qu'en réalité ça devient plus difficile de destituer un président qu'auparavant, parce qu'auparavant, haute trahison certes, mais enfin on pouvait éventuellement il appartenait aux parlementaires de le définir, une majorité simple pouvait suffire, alors que là c'est quand même très compliqué les deux tiers à obtenir, donc c'est quand même une difficulté, deux tiers, trois fois donc ça fait quand même déjà. Et donc ça c'était la première chose. Je ne suis pas certain par ailleurs que des colloques universitaires sur qu'est-ce que peut signifier un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat éclaire beaucoup la discussion, parce que chaque cas en réalité pourra donner lieu à de nouvelles controverses et des cas qu'on n'aura pas anticipés. Donc je ne suis pas certain que ce soit si efficace que ça d'y réfléchir à l'avance.
Ce serait quand même intéressant que les articles sur les discussions, les devoirs, ça c'est un domaine de...
Pas forcément, parce que comme l'a rappelé Olivier, c'était par exemple un président qui sortirait, qui renverserait une petite fille dans la rue, on voyait évidemment qu'est-ce que
c'est. Parce que dans la Constitution, stricto sensu, il y a des devoirs, des obligations,
c'est quand même un sujet. C'est surtout des habilitations, donc ça peut être. En fait, je crois que c'est pas devoir juridique qui est fait habituellement. Non, c'est un devoir moral.
Oui, oui,
donc
éthique, c'est ça.
C'est une sorte de déontologie. Alors, mon intervention initiale, c'était, donc je me limite à ça, c'était pour dire que cette tripartition à laquelle on assiste, même si on ne peut pas parler de bloc peut-être, encore que je suis pas persuadé, il y a quand même des associations de partis qu'on peut juger hétéroclites, mais qui se sont quand même constituées. Mais surtout, il me semble que ça pose un problème aussi sur l'élection présidentielle en tant que telle, et notamment sur le fait qu'il y ait deux tours. Parce qu'en réalité, au deuxième tour, auparavant, on pouvait avoir le sentiment, comme il y avait une bipolarisation, il y a une sorte de primaire au premier tour entre les partis de gauche d'une part et entre les partis de droite d'autre part, pour qu'au deuxième tour, ils se retrouvent et s'affrontent. À partir du moment où on a trois blocs qui sont sensiblement au même pourcentage au premier tour, 20-25%, on voit bien que selon le duel du deuxième tour, les résultats peuvent être très différents. Et un tiers de l'électorat peut avoir le sentiment d'avoir été complètement exclu. Et là, je ne parle pas seulement des partis qualifiés d'extrémistes, mais le bloc central, c'est la même chose. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que son socle électoral, il n'a pas beaucoup bougé depuis 2017, c'est toujours 25% ou à peu près. Et en réalité, il a été élu deux fois parce qu'en face, il y a Marine Le Pen. Donc c'est vrai que je pense que ce système à deux tours produit des effets particuliers du fait de cette tripartition. Oui.
Merci Arnaud. Nicolas Anciani.
Oui, moi je voudrais intervenir sur un sujet qu'on n'a pas encore évoqué. Et justement, Arnaud, c'est quand vous parliez de la période où le président Macron aurait pu justement nommer... Lucie Gastet ou Cazeneuve ou peu importe. Et c'était la période pendant laquelle, entre la nomination et puis la première séance de l'Assemblée. Il y a quand même aussi quelque chose, pour le dire en faveur du président, c'est que, notamment NFP et Lucie Gastet, bon, c'était un peu plus flou, mais je suis sûr qu'elle l'a aussi dit à au moins plusieurs reprises, c'est-à-dire on va gouverner par décret. Donc là, on discute gouvernement parlementaire, président, etc. On oublie aussi cette filière de décision qui est comme la pomme du péché. C'est-à-dire qu'on peut être tenté par effectivement passer par le décret. Il est arrivé de nombreuses fois, plutôt à droite, que dans les programmes annoncés à droite, on annonçait les 100 jours par ordonnance. Donc il faut quand même voir aussi que dans toute notre crise qu'on essaye d'analyser aujourd'hui, il y a ce spectre d'une ruée vers l'arme réglementaire, l'arme du décret, l'arme de l'ordonnance. Moi, j'avais pensé pendant l'été, alors c'était peut-être effectivement l'optimisme des Jeux Olympiques, que la crise des partis dont j'ai parlé dans mon intervention au tout début ouvrait l'hypothèse d'une reparlementarisation, comme on a déjà discuté. Et j'attendais un petit peu une initiative, quelque part, en fait, des nouveaux parlementaires, peut-être une initiative intergroupe, où ils disent, finalement, il n'y a pas une majorité absolue, il n'y a même pas une vraie majorité relative, mais on peut fabriquer les fameuses majorités d'idées, texte par texte. Moi aussi, j'avais une citation de Spinoza, dans le même traité politique, bon, c'est pas très long à lire, donc on va pas le trimer, et puis c'est très, très, très accessible, c'est pas l'éthique. Donc, il disait, dans une assemblée, il faut surtout pas de parti, il emploie le terme de secte, quand on connaît l'histoire de Spinoza, on comprend qu'il n'aime pas les sectes, et donc, il disait, non, il ne faut surtout pas d'idées préconçues, c'est le débat qui crée, en fait, sa propre dynamique, et il y a des vérités qui apparaissent dans le débat, dont on n'avait absolument pas idée au départ. Bon, en gros, c'est le principe délibératif. Et donc, j'étais étonné de le voir sous Spinoza dès le XVIIe siècle. Donc, si on prend ça, on peut se dire qu'il y avait une possibilité de reparlementarisation. Et et peut-être qu'elle existe encore. Si, alors probablement pas pour le budget, parce que le budget, il y a 49.3. Donc là, c'est le gouvernement qui va être leader, mais peut-être après. Sauf que ensuite, on peut se dire, la reparlementarisation, si ça consiste à faire des débats que l'opinion va juger trop longs, à des débats qui ne vont pas tellement délivrer de projets de loi qui ne vont pas aboutir, qui vont s'enliser dans les vases, le sable mouvant d'une sorte de néo-parlementarisme, mais qui a oublié comment on faisait fonctionner un vrai gouvernement parlementaire, ça peut avoir un effet complètement contre-productif, où la prochaine fois, on aura une opinion qui veut du dur, du pur, du dur, c'est-à-dire le retour de la force de gouverner avec un président, la majorité Godillot associée avec, et en plus fort, et si ça se trouve qu'il utilisera aussi les ordonnances pour aller plus vite pendant les 100 premiers jours sur l'immigration, sur ceci, sur cela. Donc j'ai passé l'été phase optimiste quand les Français avaient pas mal de médailles, et puis après depuis la rentrée, je vois rien apparaître dans la crise, et donc ça promet pour le prochain épisode.
Merci Jean-Marie Dancard.
Oui, alors, je voulais revenir un peu sur l'article 68 après ce qu'a dit Cécile Barbe et Patrick Beck sur deux points. D'abord, je crois qu'il faut être conscient du fait que ce qu'on appelait avant la réforme haute trahison et ce qu'on appelle aujourd'hui manquement, etc., c'est exactement la même chose. Parce que les non-juristes ne saisissent pas que la haute trahison pour les juristes n'était pas une trahison particulièrement vicieuse. C'est pas la même chose en pire, c'est pour dire autre chose. C'est pour dire que c'est la seule exception. En droit pénal, je laisse de côté le droit disciplinaire, bon. C'est la seule exception où ni le crime ni la peine ne soient définis. C'est ça la trahison, ça ne veut rien dire. Et c'est tout à fait cohérent avec ce que rappelait Olivier, et notamment la remarque de Carcassonne, sur le fait que si le président de la République est pédophile, il faudra le virer. Donc, c'est quelque chose qui est hors du droit. Il y a eu un progrès, effectivement, de la nouvelle mouture, c'est que là, on a défini la peine, qui est la destitution. Alors que ça n'était pas défini dans l'ancien système, et sous la Troisième République, on pouvait, en cas de condamnation à haute cour, condamner les gens à n'importe quoi, y compris au bannissement, peine qui n'existe pas en droit pénal français. C'est le cas de déroulé.
Oui, c'est pas une peine.
Comment ?
C'est pas une peine, donc la destitution, justement, l'idée du ministère a parlé, c'est
Tu as absolument raison, mais je veux dire une conséquence. Une conséquence dommageable, admissible. Tu as raison, c'est évident, c'est moi qui utilise le langage du sens commun pour dire des choses juridiques. Donc, ce n'est pas une peine, mais c'est une conséquence définie, qui est une sanction. En disant une sanction, on peut dire que c'est une sanction. Bon, alors, donc, en remplaçant haute trahison par manquement, on a simplement remplacé un terme incompréhensible pour le bon peuple par un terme compréhensible par le bon peuple. Est-ce qu'on peut aller plus loin, et comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut définir ça? C'est très difficile, parce que, bon, si on... il faudrait... Enfin, tout est possible, puisque on peut condamner tout, n'est-ce pas? Tout. Et c'est l'esprit de la chose. Donc, on ne peut pas le définir a priori. Et puis, si on définit a priori, il va y avoir un seuil. Est-ce qu'on peut, si le président de la République gifle sa femme, est-ce que ça justifie sa destitution? Et si ça ne la justifie pas, est-ce que la destitution sera justifiée s'il lui en donne deux? Donc, c'est une limite du droit, mais c'est une limite inhérente au droit. Il y a forcément, dans des situations de ce genre, une multiplicité de cas, une multiplicité de phénomènes, une multiplicité de circonstances atténuantes ou aggravantes, et on ne peut pas en faire la liste a priori. Alors, je suis d'accord quand vous dites qu'on pourrait faire, on pourrait essayer de se mettre d'accord sur des devoirs. Mais quand on se sera mis sur des comptes, sur des devoirs, et qu'on aura dit que le président doit être gentil avec sa femme s'il est marié, ce que idée que j'approuve totalement, ça, il restera une foule de cas où on ne pourra décider qu'au cas par cas, et ce qui décide de la chose, ça n'est jamais la loi. Parce que la loi est générale et que tous les cas sont particuliers, ça n'est jamais la loi, c'est toujours le juge. Donc, il faudra un juge qui soit dévié. Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse véritablement faire ça. D'autre part, je voulais dire autre chose sur ce point, c'est que lorsque vous considérez la responsabilité du président de la République, c'est quand même pas exactement le même problème que la responsabilité d'un premier ministre. Vous pouvez virer un premier ministre tous les 3 mois, d'ailleurs ça se faisait sur la 4e République, ça n'a pas empêché la Terre de tourner. Il est plus difficile de virer un président de la République tous les 3 mois, vous comprenez ? Bon. Parce qu'il va falloir refaire une élection, etc. Donc il y a une différence de nature de la responsabilité, parce que ça ne s'adresse pas à un personnage du même niveau dans la hiérarchie politique, et ça ne s'adresse pas à des personnages qu'on peut aussi facilement remplacer qu'un Premier ministre. Du moins, c'est le problème avec ça.
Merci. Patrick, pour quelque chose de très rapide. Ah oui,
Alors, moi, je pense que peut-être que je ne suis pas pour ça, je pense que vos deux interventions sont intéressantes, importantes, parce que le public extérieur ne connaît pas le sens de ces textes. Donc les gens partent dans les... Bon, et donc le fait qu'il y ait à un moment, je ne sais pas si c'est un colloque, quelque chose où on parle de ce sujet, même si c'est pour dire, oui. Tout ce que vous avez dit,
ça, je suis d'accord.
Je pense que ça doit être public, que les gens doivent apprendre ce point-là. Alors j'ai une question subsidiaire.
C'est un autre colloque ?
Non. Vous savez comment j'utilise ça quand je vais parler de l'article 1 de la loi 1905. Vous savez qu'on a l'habitude d'assister une personne en danger, une personne qui tombe dans la rue. Bon. Mais en fait, au départ, c'est une disposition pénale. Si on n'assiste pas une personne en danger, bon, on a une amende, etc. Mais c'est devenu une éthique, quelque part.
Oui,
bon, c'est devenu une éthique. Bon. Le fait qu'il y ait l'usage du terme devoir dans la Constitution, même si ça n'aboutit pas à la Constitution, c'est l'émergence d'un terme dans la Constitution. Donc ça mérite quand même le fait de pouvoir de dire que finalement il y a des devoirs du président de la République, c'est vraiment dans la Constitution. Oui. Même si c'est pas pour aboutir à la destitution, ça mérite quand même de réfléchir à ce que ça veut dire comme nouveau terme qui a été quand même approuvé par le pouvoir constituant. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas donner une définition aussi précise que dans le code pénal.
Évidemment.
Merci beaucoup. Bruno Leroy.
Oui, je crois que c'est une bonne
oui. Évidemment, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que finalement, aux trahisons et manquements manifestement incompatibles avec l'exercice des fonctions, c'est sensiblement la même chose. C'est d'ailleurs la même chose parce que ce sont des procédures qui avaient vocation à devenir exceptionnelles. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler. Que ça devienne, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, quelque chose d'usage peut-être plus régulier, plus commun, en ayant présent à l'esprit que on n'est pas forcé d'utiliser l'arme nucléaire, si vous passez cette analogie, de la destitution. Et que précisément, ces procédures-là pourraient, si elles étaient aménagées, et il faudrait sans doute revoir, d'ailleurs, ça serait une révision, il faudrait sans doute revoir au moins le seuil des 2/3 pour la réunion de la haute cour, peut-être pas les 2/3 pour la réunion pour la destitution, parce que c'est ce qui est prévu par la Constitution. Et si on lit le commentaire de Carcassonne, il manifestement considère que c'est excessif et que ça n'a pas lieu d'être. Moi, j'aurais tendance peut-être à être un peu plus prudente sur cette question, mais il faudrait peut-être revoir cette question des seuils pour obtenir la réunion d'une autre cour. Là encore, il faudrait peut-être revoir le terme qui n'est pas des plus judicieux, de manière précisément à pouvoir avoir un débat éventuellement en présence du président de la République sur une réponse, et que ce sentiment d'avoir quelqu'un qui est sur la lettre et qui ne répond jamais de ses décisions. Peut-être que ça, c'est pas la panacée, mais ça pourrait
être... Ce que vous avez dit tous les deux sur ce point, je suis absolument d'accord. Je voulais simplement préciser qu'il y a un point au-delà duquel on peut pas aller au-delà. Il y a un point au-delà duquel on ne peut pas aller en matière de définition.
Ah oui,
mais sur ce que vous dites, bien sûr.
Bon, rapidement, pour faire écho à ce que vous disiez tous, tout en scrivant absolument à ce que les gens disent, parce que c'est évidemment le problème terminal du droit et on ne peut pas aller plus loin que ça. Je remarque quand même ce que tu as dit, Denis, tout à l'heure, à propos d'un sujet que tu n'as pas dit comme ça, mais tu as remarqué le retrait des parlementaires, du Parlement, dans le travail de définition, dans le travail d'approfondissement. Enfin, je crois qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est un petit peu difficile à évoquer, mais c'est la baisse du niveau, quand même. Oui, mais alors j'ai pas été suffisamment attentif, mais ou alors on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est une baisse de niveau absolument considérable. Et je pense que plutôt que de vouloir absolument reparlementariser les institutions, je pense que je serais partisan d'une réinstitutionnalisation des institutions. Alors, qu'ils aient le sentiment que les parlementaires, alors que ce sont des organes de l'État, que ce ne sont pas simplement des apparatchiks, des partisans. On les recrute essentiellement. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé non plus, qui rejoint celui dont je veux parler, c'est la professionnalisation politique. Une part considérable sont les anciens assistants parlementaires, sont des professionnels qui, de toute façon, sont tenus, ensuite par leur institut ou éventuellement une présence sur la liste, mais ils sont absolument tenus. Donc ce travail là, que le Parlement devrait faire pour essayer d'éclairer les citoyens, même s'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller, à mon avis, il devrait être fait par le Parlement. Et à propos de reparlementarisation, paradoxe quand même que je vais souligner, c'est que, c'est ce que disait Nicolas Rousselier à propos du gouvernement par décret, aussi les journalistes m'ont interrogé au moment où la gauche annonçait qu'ils allaient gouverner par décret. Et j'avais eu une espèce de dire, tiens, c'est bien que la gauche, qui n'arrête pas de nous casser les pieds avec le parlementarisme, disent qu'ils veulent gouverner par décret. Et ça, c'est quand même assez drôle. Alors, Julien parlait l'heure du rôle des électeurs, qui doivent. Mais, j'aimerais bien qu'on explique d'où est sorti Lucie Castet, de quel chapeau elle est sortie. Alors, de ma part, Lucie Castet, les gens qui elle n'est même pas candidate. Elle n'a pas été candidate, personne ne la connaissait. Et on lui trouve rétrospectivement une circonscription, parce que justement, il y a un gars qui a giflé, je sais pas qui, voilà, et qui n'a pas respecté ce dont parle Jean-Marie. Et ça paraît complètement hallucinant, quoi. Donc, tout ça au nom du parlementarisme, ou de la reparlementarisme.
Oui, mais ça, c'est un choix personnel de Mélenchon. Non. C'est la marionnette de Mélenchon, quand Bardella et ça, je
Non. Je pense que c'est une personnalité qui ne pose pas de problème à l'intérieur de ce creuset très problématique qu'est le nouveau Front populaire. Donc il ne pouvait pas y avoir M. Glucksmann, ça ne pouvait pas être Mélenchon. Donc Mme Castet, c'était une solution. Je répète, personne à gauche ne la connaissait. C'était extrêmement frappant.
Un tout petit peu.
Pas du tout. Hein,
le service public.
Oui,
le service public, mais à part ça, elle n'avait pas de notoriété. C'est pas pour autant.
Il y a même maintenant un argument que j'entends, mais qui consiste à dire.
Il y a un argument que j'entends qui consiste à dire, c'est précisément la nouveauté de sa personnalité qui permettait de donner une chance à la gauche. C'est un argument défendable, tous les arguments sont valables, mais ce n'est pas la personne qui est en cause, parce qu'en réalité, les noms qui ont été sortis, si je puis dire, du chapeau dans un premier temps par M. Macron n'étaient pas tous tellement plus convaincants. Il y a là un problème d'offre politique majeur, me semble-t-il. Julien, vous étiez sur ma liste, voulez-vous
deux réflexions rapides pour revenir à l'article 68. Pour le coup, alors autant Carcassonne, le quinquennat, Carcassonne, le non-cumul, on a tapé, je suis prêt à taper, autant sur cet aspect-là, le passage de la trahison à l'article 68 récent, je trouve aussi qu'il y a quand même un vrai progrès, c'est-à-dire que ça permet quand même de préciser la haute trahison. Est-ce qu'un président de la République qui, sous la troisième, trompait sa femme, on aurait pu considérer si ça rentrait dans le cas de la haute trahison? Ça aurait semblé quand même un peu bizarre du point de vue de en tout cas, de la manière dont collectivement on conçoit le mot de trahison présidentielle. Aujourd'hui, si jamais on apprend qu'Emmanuel Macron viole des stagiaires, de la présidente de la République sous la troisième, mais les personnes avaient existé. Donc,
elle
est partie dans la porte
derrière. Il y a aussi le fait que la société a changé, vous voulez dire, c'est un président de la République, un président de la République qui avait une maîtresse et qui est d'ailleurs mort, donc là, il n'y a plus la peine de destituer, mais s'il n'était pas mort, on ne l'aurait pas destitué pour ça.
Le président pouvait faire ça.
Par ailleurs, quand même, sur la définition du délit qui n'est pas un délit, le caractère manifestement incompatible, ça permet quand même aussi de faire, quand on regarde simplement ça, un tri entre des éléments qui pourraient être purement politique, j'ai pas aimé la décision prise par le président de la République hier sur telle question, est-ce que c'est incompatible, voilà, manifestement incompatible, il me semble que ça a l'air un tout petit peu le seul, mais ensuite on peut en débattre. Et sur la qualité du personnel parlementaire, j'allais dire ça, là pour le coup je suis complètement d'accord avec toi, sur le fait qu'il y a un déclin très fort et que nos réflexions très abstraites sur le point de savoir si le centre de gravité des institutions mérite d'être déplacé de la présidence de la République vers le Parlement, en tout cas vers l'Assemblée nationale, le Sénat c'est peut-être encore un peu autre chose pour l'instant, eh bien à mon avis, ne doivent pas ignorer quand même ce fait qui me semble un fait en profondeur, de long terme.
Est-ce que c'est un déclin de la qualité des représentants ou c'est aussi un déclin, je vais faire plaisir à personne, mais des administrateurs des assemblées qui sont quand même beaucoup.
Non, ils sont pas
pour le coup. Ils sont très bons.
Ils sauvent la mise institutionnellement, mais qu'ils ont beaucoup de travail. Ils viennent de voitures belles. Le rattrapage du coup. Ensuite, après, ça en revient en partie. On en vient à la question de la formation à l'intérieur des partis. Il n'y a plus de partis, mais il n'y a plus d'école des cadres. Il y avait une perte massive. C'est ce qu'on peut dire, nous universitaires qui sommes tous d'extrêmement bonne qualité. Alors, je vais donner le dernier mot à Olivier Beau. Je voudrais que le dernier quart d'heure revienne à la salle. On propose qu'Olivier Beau ait le dernier mot des élites gouvernantes et puis ensuite le peuple pourra parler.
Je ne pas du tout à juste deux remarques. La première, c'est que les universitaires n'ont pas été pratiques, mais pour la question du personnel parlementaire, moi je propose que tous les parlementaires élus, dont les députés, aient une session obligatoire d'un mois de formation professionnelle. Les universitaires sont payés pour leur faire des cours. Voilà. L'université gagne de l'argent avec ça. Donc on devrait faire ça.
Si c'est bien payé, c'est pas nous qui le ferons.
Alors, je maintiens une formation, pas seulement en Russie, mais une formation vraiment politique, la formation continue pour que ces élus aient un minimum de connaissances, ils n'ont pas du tout. Donc, je pense que c'est une mesure de bon sens, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore pris.
Tu sais que ça a été donné, et qu'il y a eu des demandes très fortes, notamment au moment où les REM sont arrivés au sein de l'Assemblée, il y a eu une demande.
Alors, qui l'a fait présent?
Une anecdote, un député vient me voir à la fin d'une session de formation, il me dit « Ah, monsieur le professeur, c'est fort intéressant, tout ça, mais moi j'ai une idée. Je trouve qu'on devrait mettre quelque chose dans la Constitution. On devrait placer dans la Constitution le droit de nous, les parlementaires, de participer à la formation de la loi.
La formation n'avait pas été résolue.
Voilà.
C'est du niveau des formateurs.
J'ai manqué de manière manifeste au niveau de formateurs. Et d'ailleurs, je n'ai pas été renouvelé.
Et la deuxième question, juste, on n'a pas évoqué ces gens quand même de la réforme. On a évoqué la réforme que propose Michel Tropez, Arnaud Fulbert, de modifier l'élection, enfin, de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Mais quelle est la modalité pour essayer de. Tout le monde dit que c'est utopique, qu'on n'arrivera jamais à convaincre le peuple de cela. Comment est-ce qu'on peut faire, techniquement parlant, pour faire cette réforme? On ne va pas faire ça par une révision, mais par un congrès. Parce que si on faisait par un congrès, on va dire voilà, on capte encore, on vole le pouvoir au peuple. Donc est-ce que Michel et Arnaud, est-ce que vous avez réfléchi à une modalité technique qui permettrait justement d'échapper à cette
question? Article 11 par les uniformes à la place.
Je ne suis pas venu à la place. Le système italien n'est pas mauvais. L'élection par le Parlement, après consultation.
En
Allemagne aussi. Mais avec.
Quelle voix
avec l'élection d'une personnalité avec des exigences de majorité qualifiée pour éviter que ce soit quelqu'un qui a la faveur politique du moment, mais avec un système de majorité qualifiée, on a une personnalité consensuelle. Et la qualité des présidents de la République italienne a été très très bonne. Et ils ont joué un rôle très 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 positif. Et donc ce système, il a pas mal marché d'ailleurs sur la 4e République. Mais le système italien me paraît bon.
Quant à la modalité de changement, effectivement, c'est une question difficile parce que il me semble que même si puisque c'était ta proposition passe par le référendum, on a un problème, c'est que cette proposition n'a pas immédiatement les faveurs de l'opinion publique a priori. Les gens, mais je crois que ça fait longtemps que je défends cette idée qu'il faut d'abord commencer à en parler. Parce qu'il me semble que dans les médias en général, peut-être parce que l'élection présidentielle est si attrayante médiatiquement, parce que ça occupe énormément de temps d'antenne, il y a cette espèce de petite course qui ressemble de plus en plus d'ailleurs à un jeu télévisé, on est à la limite du buzzer sur les petits pupitres. Je me dis que ça va être très difficile de faire avancer cette idée, mais je crois que tant qu'elle n'est pas suffisamment avancée dans l'opinion, de toute façon, les modalités pratiques, c'est pas la peine d'y réfléchir trop, parce qu'on en est encore loin, mais tu as tout à fait raison de penser qu'il paraîtrait très très difficile de retirer ce pouvoir au peuple sans, enfin au corps électoral pour être plus précis, sans le consulter, parce que ça apparaîtrait encore une fois comme une captation.
Michel, j'ai le souvenir de cours de Vedel en première année à Sciences Po qui est milité pour le système présidentiel. Et on était encore sous la 4e République. Et il se heurtait à l'objection, c'est pas possible, c'est affreux, toutes les expériences. L'expérience de 48, le système présidentiel, ça donne des coups d'État et ça donne des dictatures. Et Vedel disait non, il faut changer, il faut comprendre que ce qui provoque des dictatures, c'est l'anarchie, et donc il critiquait de cette façon avec quelqu'un de plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé d'un système dans lequel, d'une culture politique et constitutionnelle, dans laquelle l'élection d'un président au suffrage universel était considérée comme abominable sous la 4e République, à un autre moment où ça a les faveurs de l'opinion? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu naturellement l'expérience de la 5e République. Mais l'expérience de la 5e République a été préparée dans la culture des classes des dominantes par toute une campagne menée par Vedel, par Duverger, par d'autres, par le club Jean Moulin, qui a eu beaucoup de retentissement dans la presse, dans Le Monde, dans l'Express, etc. Et donc l'opinion a été préparée. Et après, il me semble que ce genre de réunion, si ça avait un peu plus d'écho dans la presse, ferait peut-être comprendre qu'on peut revenir là-dessus. De même qu'on a pu revenir sur le refus de l'élection présidentielle au suffrage universel dans les années, à la fin des années
58.
Comment ?
Il y a quand même le coup d'État de 58.
Il y a le coup de 58, il y a eu la prévalence de choses. Mais c'était favorisé par ça. Le club Jean Moulin a préparé ça.
Oui, mais bon. Je pense qu'il faut que nous créions un club Patrick Veil. De Patrick. Je vais donner la parole à la salle et à la salle virtuelle si vous avez des questions sur Zoom. Est-ce que la salle voudrait poser des questions? Il nous reste une deuxième minute. Vraiment. J'essaie d'être démagogique et puis. Très bien. Et bien, sur ces propos, je voudrais remercier très chaleureusement les vrais organisateurs qui sont Patrick et Olivier. Et Patrick, qui a été l'initiateur, nous l'avons bien compris, de cette discussion et de discussions futures, je l'espère, à l'Institut Vidal et puis dans les pages du blog du Politicum. C'est la preuve qu'on peut parler sérieusement et j'espère de manière pas trop ennuyeuse au droit constitutionnel. Merci beaucoup à tous.